merci pour votre présence pour ce débat qui s'intitule « Les chemins de la migration » organisé par la Bibliothèque publique d'information du Centre Pompidou en collaboration avec les éditions de l'École des hautes études en sciences sociales et donc avec la collaboration d'Agnès Belbezé que je remercie ici. Donc pour ce débat qui fait partie de cette collaboration semestrielle, nous accueillons trois intervenants. Je vais présenter tout d'abord Pierre-Henri. Pierre-Henri est directeur général de France Terre d'Asile et spécialiste des questions de développement et d'immigration. Et il est auteur récemment de l'ouvrage « Lettres ouvertes aux humanistes en général et aux socialistes en particulier » aux éditions Les Points sur les I. Je remercie Pierre-Henri d'avoir accepté d'animer ce débat et je vais le laisser présenter les intervenantes. Merci à vous.
Eh bien, merci Emmanuel Payen. Merci à toutes et à tous d'être ici. Merci à la bibliothèque du Centre Pompidou, à la bibliothèque publique d'information qui, en complicité avec les éditions de l'EHESS, fait œuvre utile, me semble-t-il, en interrogeant les chemins du savoir sur une question éminemment complexe et terriblement instrumentalisée au quotidien. Et ce n'est pas aujourd'hui, et à partir des informations transmises depuis Lampedusa, que je risque d'être démenti sur cette assertion. Mais de cela, je vous propose que nous nous tenions à distance dans ce débat pour ne demeurer que sur les chemins du gai savoir. Les fausses idées en matière d'immigration sont légion, persistent et se renforcent dans les périodes de crise. Ce fut notamment le cas dans les années 30 et c'est encore le cas depuis l'aggravation de la crise financière, la crise du capitalisme financier, puis de ses effets sur le chômage et l'emploi en France et en Europe. Pourtant, je voudrais un peu sous forme de boutade vous annoncer une bonne nouvelle. Le monde entier ne migre pas. Je voudrais vous faire part d'une expérience en tant que directeur général de France Terre d'Asile, employant près de 500 salariés, il m'arrive de regarder les tests de culture générale auxquels nous soumettons quelques candidats à l'embauche dans notre organisation. Et une de ces questions est ainsi libellée. Quel est, selon vous, le pourcentage de migrants par rapport à la population mondiale ? Et je dois dire que je suis toujours ébahi des réponses qui sont apportées à cette question très simple. Et je suis ébahi, y compris par les représentations que, évidemment, cela induit chez des gens qui manifestent pourtant une réelle empathie par rapport à la thématique nous portons et qui sont très, en général, très diplômés. Et donc, voilà, cette question, oui, le monde entier ne migre pas, 97% de la population mondiale ne migre pas. Et nous allons, dans ce débat, analyser tout à l'heure comment les 3% restants de ceux qui migrent, c'est-à-dire ceux qui franchissent une frontière, eh bien, à partir de quelle zone partent-ils ? Quelles sont les raisons de ces migrations qui résonnent comme autant de défis à relever ? Comment le paysage s'est-il modifié depuis une trentaine d'années ? Et qu'est-ce que ce 3% représente en volume ? Alors, pour nous éclairer sur cette question, nous avons une des meilleures spécialistes de la question de la question migratoire, la personne de Catherine Wittold-Vanden, qui est directrice de recherche au CNRS, qui est auteure d'une vingtaine d'ouvrages et de nombreux articles sur le phénomène, et le dernier ouvrage qui s'intitule « La question migratoire au XXIe siècle ». Je demanderai donc tout à l'heure à Madame de Vanden de nous faire voyager avec ces migrations, et peut-être en se concentrant, si vous voulez bien, à un moment donné de votre exposé, sur plus particulièrement sur l'Europe et sur la question méditerranéenne, cette Méditerranée bordée, comme vous le savez, par une vingtaine de pays, dont quatre européens, l'Italie, l'Espagne, la France, la Grèce, avec une population qui, d'un côté, stagne, de l'autre, est en croissance rapide, et une population qui, pour plus près de la moitié d'entre elles, a moins de 25 ans, et avec un écart de revenus qui varie de 1 à 10. Et donc, voilà deux défis dont nous allons parler, évidemment, démographiques, économiques, tracés à grands traits, et puis qui interrogent très rapidement les politiques d'accueil. Et donc, des politiques d'accueil, nous en parlerons avec Anne-Sophie Bruneau, d'abord sous un angle particulier, qui est celui de son livre « Les chemins de la mobilité, migrants de Tunisie et marché du travail parisien depuis 1956 ». Cette étude qui parle du plafond de verre, des inégalités du marché du travail et de l'intégration sur le marché du travail, ben vous nous direz, Anne-Sophie Bruneau, en quoi elle peut constituer une grille de lecture en matière d'intégration et s'il y a une leçon générale à en tirer. Vous avez écrit plusieurs livres, notamment sur la santé des migrants. Ça s'appelle « Santé au travail, entre savoir et pouvoir ». Vous avez écrit aussi un autre livre qui s'appelle « Les mains inutiles, inaptitude au travail et emploi en Europe ». Voilà quelques éléments donc pour placer le débat. Et je vais maintenant, sans plus tarder, passer la parole à nos deux intervenants en leur demandant de m'aider à avoir une présidence modeste, puisque on m'a demandé d'animer le débat, et en respectant le cadre horaire que nous sommes donné, c'est-à-dire dans une première intervention et avant de venir vers le public, pour une première intervention de 15 minutes. Madame de Vanden.
Oui, merci Pierre-Henri. Donc je vais essayer de présenter ce paysage migratoire du XXIe siècle, qui est presque le titre de mon livre, d'ailleurs, La question migratoire au XXIe siècle, parce que ce paysage, même s'il est modeste en termes de migration internationale, il s'est considérablement transformé depuis 20 ans. La plupart des choses dont je vais vous parler, ce sont des événements qui ont 20 ans d'âge. Parce que depuis 20 ans, on a eu une accélération considérable des mouvements migratoires internationaux, toujours ces fameux 3% de la population mondiale, mais ces migrants internationaux qui représentent un peu plus de 200 millions de personnes à l'échelle de la planète ne sont que le tiers des migrations internes. On a à peu près 740 millions de migrations internes et 200 millions de migrations internationales. Donc en fait, les migrations intérieures chinoises sont autour de 240 millions, c'est-à-dire elles sont plus nombreuses que l'ensemble des migrations internationales à l'échelle mondiale. Donc ça, c'est un premier élément. Autre chose qui peut frapper, c'est que les migrations sud-nord, dont on ne fait que parler, notamment récemment, ne sont que le tiers des migrations internationales. On a environ 62 millions de migrants sud-nord, 61 millions de migrants sud-sud. On a une cinquantaine de millions de migrants nord-nord, 14 millions de migrants nord-sud et le reste, migration est-ouest, ouest-est. Donc en fait, il faut bien replacer les choses là où elles se trouvent. Et en même temps, ces migrations internationales, quoique modestes, ont triplé en 40 ans. On avait environ 77 millions de migrants au début des années 70. Aujourd'hui, on est au-delà de 200 millions. Donc un phénomène qui s'accélère et qui s'est mondialisé. Aujourd'hui, presque tous les pays du monde sont concernés soit par le départ, soit par l'accueil, soit par le transit, soit souvent par deux ou trois éléments à la fois. Départ et transit, ou accueil et transit. Donc beaucoup de pays sont à la fois des pays de départ et d'accueil, si j'ose dire, parfois un petit peu malgré eux. La fermeture des frontières a souvent accéléré le fait que ce sont des pays de transit, des SAS, si j'ose dire. Et ce brouillage des catégories entre les pays, on le trouve aussi autour des migrants. Beaucoup de gens sont des gens qui, dans leur vie, vont emprunter des quantités de statut, depuis le sans-papier, occupant un travail très peu qualifié, jusqu'à quelqu'un de très qualifié, s'il avait déjà des diplômes au départ, en empruntant éventuellement des quantités de statut, chose qu'on ne trouvait pas dans la période analysée par Anne-Sophie Bruno, où on était très souvent, pas haut et sa vie, elle montre qu'on peut évoluer quand même, mais assez modestement, où on était réfugié, le réfugié étant très différent au moment de la guerre froide de l'OS de chez Renault. Donc, brouillage des catégories, puis aussi les catégories entre le demandeur d'asile, celui qui cherche du travail, celui qui vient pour le regroupement familial, sont des catégories aujourd'hui de plus en plus floues, ce qui d'ailleurs questionne les politiques publiques. Les facteurs de cette mobilité se poursuivent, c'est-à-dire qu'en fait, on peut prévoir déjà une poursuite des migrations internationales. Ce ne sera pas l'invasion, ce ne sera pas la conquête, comme certains le disent, mais plutôt un mouvement long et continu qui va se poursuivre au cours du XXIe siècle, parce que tous les facteurs de la mobilité se poursuivent. L'information, d'abord, entre la rive nord et la rive sud de la Méditerranée, tout circule, et surtout l'information. On l'a vu récemment avec les affaires tunisiennes et libyennes. Et également, l'économie du passage. Quand les frontières sont fermées, il y a une économie de la frontière qui est d'autant plus rémunératrice que les frontières sont durement fermées et que leur passage est réprimé. Également, les réseaux transnationaux, économiques, familiaux qui soutiennent la migration. Également la chute du mur de Berlin qui a permis à des millions de personnes de sortir de chez eux alors qu'avant c'était quasiment interdit. Donc une partie de la planète a pu enfin avoir un passeport et sortir de chez soi. Ça, c'est un élément tout à fait important. Également les crises politiques des 20 dernières années qui ont amené sur les routes de l'Europe, entre autres, des millions de déplacés, de réfugiés, mais aussi dans les pays du Sud, à proximité des zones de conflit ou dans ces mêmes zones, dans ces mêmes pays en conflit, dans des zones de migration interne protégées, comme on dit. Donc, en fait, des quantités de transformations se sont produites au cours de ces 20 dernières années. Et dans mon livre, j'ai essayé de montrer en quoi ces transformations questionnaient les relations internationales. C'est ça la question de mon dernier livre. En quoi ça modifie finalement l'ordre international des États. Et ce qu'on peut voir, c'est que d'une part, l'État est quand même fortement mis au défi, on a emprunté le terme tout à l'heure, mis au défi de ces migrations, puisque en fait, les frontières sont transgressées, les populations se transforment à l'intérieur des États d'accueil, nécessairement, et parfois de départ aussi quand ils sont des pays de transit. Et donc, tout ce que l'État maîtrisait bien, c'était les frontières, la population, le territoire, la langue, la culture, est bouleversé par les migrations. Et l'État n'est plus nécessairement le principal maître du jeu. Les réseaux transnationaux qui courent à travers les frontières et qui mettent en lien des populations de part et d'autre sont parfois plus forts que les États, et les politiques de dissuasion sont souvent mises en défaut par l'intensité de la mobilité. Ça ne veut pas dire que les gens s'installent, on dit mobilité. On a de plus en plus de gens qui sont en situation de mobilité ou qui aspirent à cette mobilité. Et plus les frontières sont ouvertes, plus les gens sont mobiles, moins ils s'installent, plus elles sont fermées, plus ils se sédentarisent dans la précarité et l'illégalité du statut. Un autre élément également de cette transformation de l'État disons, un peu chahutée par les réseaux migratoires et par les individus migrants. L'individu devient un acteur de la scène internationale. C'est la citoyenneté, le contenu de la citoyenneté, qui était une sorte de lien indissoluble entre l'individu et l'État-nation auquel il appartenait, est fortement remise en question. La citoyenneté s'est dissociée de la nationalité. Aujourd'hui, on a de plus en plus de doubles nationaux. Il y a 92 pays dans le monde qui permettent la double nationalité. On a des quantités de citoyens aux allégeances multiples et à des niveaux de référence qui peuvent être locales, régionales, nationales, internationales. Et cette citoyenneté elle-même s'étend au-delà des frontières, soit parce que les gens peuvent voter, ont des références au-delà des frontières de l'État, c'est ce que certains appellent l'État transnational, soit parce que les pays de départ, et c'est un troisième élément, deviennent de plus en plus actifs sur la scène internationale par migrants interposés. Aujourd'hui, il y a une diplomatie des migrations internationales qui est menée par les pays de départ, non moins pour les contrôler, comme c'était le cas dans le passé, que pour exercer une influence à travers leurs migrants, surtout quand ils sont électeurs dans les pays d'accueil, ou à travers la gestion d'associations, l'autorisation de la double nationalité. Et comme ça, ils entrent en scène et ils deviennent des sortes d'États diasporiques présents sur la scène mondiale, mais aussi européenne, par exemple, pour faire avancer un certain nombre de négociations. Un autre élément aussi, et ce sera mon dernier point, c'est finalement à la fois la construction de l'Europe par paliers successifs au fil et à mesure de la fermeture des frontières, mais aussi de bricolage, de politique d'entrouverture dans un contexte de déclin démographique des Européens, mais aussi la tendance des pays à finalement sortir un petit peu de ce système européen, des États européens, en concluant des accords bilatéraux avec les pays de la rive sud de la Méditerranée. On en a reparlé avec la Libye ou avec la Tunisie, ce qui leur permet de marchander plus facilement la migration contre du développement, des titres de séjour pour les qualifiés ou autres, et également la façon qu'a l'Europe à gérer les flux directement avec des pays de départ plutôt que de passer par des systèmes régionaux plus complexes. Et en arrière-fond de tout cela, il y a l'idée que la gestion des migrations au XXIe siècle, donc, c'est une sorte de Far West, d'une certaine façon, puisque chacun essaye d'être influent sur la scène, mais en même temps, peut-être qu'une autre façon de gérer les flux, plus multilatérale, à l'échelle mondiale, en mettant autour de la table les États de départ, les États d'accueil, les associations de migrants, les employeurs, les syndicats et quelques autres acteurs, permettrait, comme dans d'autres grands enjeux mondiaux, d'avoir une gestion plus rationnelle des migrations, parce qu'aujourd'hui on est dans beaucoup de désordres, d'atteinte aux droits de l'homme, de non-utilisation finalement du potentiel que constitue la migration, et très souvent on hypothèque très souvent l'intégration par les conditions de séjour et d'entrée qui sont faites aux migrants. Donc voilà un petit peu le tableau que je vous brosse très rapidement pour le XXIe siècle, dans un contexte finalement où on ne sait pas très bien comment gérer tout cela en réalité. On hésite. Et l'Union européenne est un exemple de brouillage, si j'ose dire, parce que d'un côté on ferme et puis ensuite on dit qu'il faut entrouvrir parce qu'on a besoin de main-d'œuvre, parce que l'Europe vieillit. L'âge médian, par exemple, en Europe, aujourd'hui, il est de 39 ans. C'est-à-dire qu'il y a autant de gens de plus que de moins de 39 ans. Dans les pays de la rive sud de la Méditerranée, au Maghreb, il est de 25 ans. En Afrique subsaharienne, il est de 19 ans. Donc on voit bien le décrochage de l'Union européenne, alors que dans les pays européens, dans les années 50, l'âge médian, il était de 28 ans. Donc là, on voit déjà ce vieillissement des Européens par rapport aux voisins immédiats. Et on voit également, disons, la proximité de la rive sud de la Méditerranée dans un espace régional qui a du mal à se définir, faute de hardiesse peut-être de la part des Européens de construire un espace plus ouvert de circulation avec la rive sud de la Méditerranée. On a des quantités d'espaces régionaux qui ont été proposés. On en a 22 qui ont été proposés à l'échelle mondiale avec des accords, etc. Depuis une quarantaine d'années, il n'y en a qu'un ou deux qui fonctionnent. L'Europe pour les Européens, la libre circulation intérieure, le marché nordique du travail. Tous les autres ont quasiment échoué. Pour cause de risques, pour cause de peur de l'opinion publique, de conflits dans la région, etc. Et pour progresser dans ce terrain de la mobilité, qui est une revendication des migrants, le droit à la mobilité comme droit de l'homme pour le 21e siècle, il faudrait avoir un espace régional, avoir plusieurs espaces régionaux de libre circulation, beaucoup plus, disons, inventifs que celui qu'on a aujourd'hui avec la rive sud de la Méditerranée.
Merci de ce vaste panorama. Peut-être, juste avant de passer la parole à Anne-Sophie Bonneau, est-ce que, malgré tout, sur cette question de l'espace européen, vous pouvez nous donner quelques précisions sur le nombre de migrants, d'où viennent-ils, comment est ce paysage, de manière à ce qu'on le cadre bien.
Alors, les Européens, l'Europe, c'est à peu près 490 millions d'habitants. On a un peu plus de 30 millions de migrants en Europe, donc ce n'est pas considérable, mais une très grande diversité de situations migratoires selon les pays européens. De très loin, l'Allemagne est le premier pays pour le nombre de ses étrangers en Europe, puisqu'elle a autour de 7 millions, un peu plus de 7 millions d'étrangers. Là-dessus, se sont rajoutés, depuis la chute du mur de Berlin, 2 millions d'Allemands ethniques, mais qui étaient en fait des nouveaux venus, qui venaient surtout de l'ex-URSS, pour faire simple. Et puis, on a des pays, l'Espagne, par exemple, qui, au cours de ces 10 dernières années, est devenu le deuxième pays d'immigration en Europe, devant la France, qui était le second en chiffres, même si la France est le premier historiquement, puisque c'est le plus ancien pays d'immigration en Europe. Et puis ensuite, on a la France, l'Italie, le Royaume-Uni, et puis des pays qui n'ont pas beaucoup de migrants, mais qui ont des proportions très importantes. Le Luxembourg, 40% d'étrangers. La Suisse, 30% d'étrangers. Beaucoup de pays qui ont 10% d'étrangers également. Donc, une situation qui évolue très, très vite en la matière, en fonction des voisinages géographiques, historiques et des compositions de nationalités très différentes d'un pays à l'autre. Le paysage migratoire, c'est le fruit de l'histoire et de la géographie de chacun des pays européens. Si on regarde par exemple l'Europe du Sud, qui est passée en 20 ans de région de départ au statut de région d'accueil, on voit qu'on a malgré tout, Portugal, Espagne, Grèce, Italie, on voit malgré tout que le paysage des nationalités présentes dans ces pays est très différent d'un pays à l'autre. Le Portugal est très marqué par son passé colonial et l'Espagne par la proximité du Maroc, mais aussi par les liens avec l'Amérique latine. L'Italie est une sorte de saupoudrage de différentes nationalités, fruit de la mondialisation des migrations qui sont survenues depuis 20 ans. Et puis la Grèce est très marquée par la chute du mur de Berlin, puisque la plupart de ces nouveaux venus viennent du bloc de l'Est. La Grèce n'avait aucune frontière commune avec l'Union européenne avant 2004. Donc on a des situations très, très contrastées, très, très différentes d'un pays à l'autre. Donc, et le paradoxe, c'est qu'on veut faire une politique européenne commune. Et ça, c'est très difficile parce que les sensibilités en termes d'asile sont très différentes d'un pays européen à l'autre. Il y a une volonté d'harmoniser aujourd'hui le droit d'asile, mais ça va être sans doute très difficile parce que chaque pays européen a sa politique étrangère pour l'instant. Harmoniser le contrôle des frontières. Les pays européens sont sensibles différemment à tel flux migratoire en fonction de son voisinage géographique avec telle ou telle zone de conflit. Également, les migrants qu'ils ont déjà chez eux conditionnent souvent l'arrivée de nouveaux venus de la même nationalité, parce que les gens assez rationnellement rejoignent ceux qu'ils connaissent, leurs proches. Donc, s'il y a un conflit dans l'ex-Yougoslavie, c'est surtout l'Allemagne qui les reçoit parce qu'elle avait une migration de cette cette région, et ainsi de suite pour des quantités de groupes. Donc en fait, la difficulté de la politique européenne, c'est de concilier toutes ces différences. Et puis aussi d'avoir une politique qui à la fois ferme ses frontières pour répondre à l'opinion publique ou à l'utilisation qu'on en fait, et de l'autre côté, entrouvrir parce qu'on a besoin d'immigration. Donc ça aussi, c'est assez difficile. Et puis enfin, essayer de faire marcher une machine qui s'est constituée par strates successives. On a eu plusieurs étapes, Schengen en 85, les accords de Dublin en 90, traité d'Amsterdam avec l'harmonisation des flux en 97, et des politiques plutôt, et toute une série de nouveaux dialogues européens qui ont eu lieu depuis, qui sont surtout centrés sur le contrôle des flux. Donc tout ça, ça fait une sorte de cacophonie très complexe, et finalement, c'est dans ces méandres que se lovent les flux migratoires vers l'Europe.
Merci. Je vous avais promis de la complexité au début ce débat. Vous en avez. Nous pourrons y revenir tout à l'heure. Alors, des chemins de la migration au chemin de la mobilité, professionnelle, il n'y a qu'un pas, puisque évidemment, ces migrants, pour un certain nombre, ont tout à fait vocation à demeurer sur les territoires sur lesquels ils arrivent, ils s'installent, et c'est ce que vous avez étudié à partir d'une cohorte composé de migrants tunisiens sur le marché parisien à partir de 1956. Anne-Sophie Bruno.
Bonjour. Donc effectivement, l'ouvrage dont je vais vous parler aujourd'hui porte sur les trajectoires professionnelles des migrants de Tunisie. En fait, donc je vais vous expliquer un peu ce concept un peu particulier de migrants de Tunisie depuis 1956 jusqu'aux années 1990 à peu près. Donc son ambition, c'était de contribuer à l'histoire de la mobilité sociale sous l'angle de la mobilité des étrangers, avec en toile de fond de mon idée de recherche, les débats nés dans les années 90 sur les inégalités et les discriminations, notamment les discriminations au travail. Donc en bonne historienne, quand je me suis intéressée à ces questions, j'ai cherché les racines historiques de ces phénomènes de discrimination dans le passé, bien sûr. Et lorsque j'ai commencé ma recherche en 97 déjà, j'ai trouvé peu de réponses finalement à mes questions dans les ouvrages, notamment les ouvrages d'histoire, et aussi dans les ouvrages de sociologie, puisque les étrangers ont été très longtemps, comme les femmes, les grands oubliés des enquêtes de mobilité sociale. Donc j'ai décidé de m'intéresser à cette catégorie particulière. Alors pourquoi est-ce que ça a été les grands absents des études de mobilité? C'est parce que pendant très longtemps, on les a considérés comme une main-d'œuvre d'appoint et donc une main-d'œuvre peu intéressante à analyser. Donc mon objectif, c'était d'essayer de combler cet angle mort des études de mobilité sociale. Notamment, mon idée de départ, c'était de tester la force de l'idéal type identifié par Abdelmalek Sayad, qui était l'idéal type de l'immigré au SAV. Et je rappelle ici que quand on parle d'ouvrier spécialisé, c'est la machine qui est spécialisée, puisque c'est une machine spécialisée dans une tâche répétitive, et non pas l'ouvrier qui est spécialisé au sens de qualifié. Donc ce que je voulais savoir, c'est est-ce que cette figure de l'immigré au SAV, notamment sur les chaînes de travail de l'industrie automobile, est-ce que c'était une figure spécifiquement étrangère du marché du travail, et est-ce que ça durait toute la carrière ou pas de ces étrangers? Donc voilà les questions qui guidaient ma recherche au départ. Donc pour cette étude du marché du travail par les marges, les étrangers, pourquoi avoir choisi les migrants de Tunisie qui sont une marge parmi les marges et un objet assez exotique pour la plupart de mes auditeurs? Donc ce choix tient au fait que c'était difficile pour moi, étant donné que je ne suis pas l'INSEE ou l'INED, de mener une enquête sur la mobilité sociale des étrangers pendant les Trente Glorieuses et la crise des années 70-80. Sur donc l'ensemble des étrangers, puisqu'il faut multiplier les points de contrôle pour réussir à avoir des résultats qui veuillent dire quelque chose. Donc il fallait que je trouve un terrain plus circonscrit. Et mon choix s'est porté sur les migrations en provenance de Tunisie, parce que ça me permettait d'avoir une approche historique qui intègre la dimension coloniale et la période des Trente Glorieuses, qui est une période centrale pour l'histoire sociale et économique de la France et aussi pour l'histoire de l'immigration. Et plus encore, d'un point de vue statistique, puisque c'était mon angle d'attaque, il fallait absolument que je dispose d'un contrefactuel. Pour étudier la mobilité professionnelle d'étrangers, il fallait que j'ai un contrefactuel qui est la mobilité de Français. Et là, l'émigration en provenance de la Tunisie postcoloniale constituait un très bel objet, puisque au sein de ces migrations en provenance de la Tunisie après 1956, j'avais des Français de naissance, mais aussi des Français par acquisition, et j'avais des étrangers. Alors certes, des Tunisiens majoritairement, mais aussi des Italiens, puisque les Italiens étaient très nombreux en Tunisie. Donc ça, c'est le fruit de l'héritage colonial, bien évidemment. Et donc l'intérêt, c'est que ces populations arrivaient en France à des dates relativement concomitantes tout le long des années 50 et des années 60, ce qui me permettait de pouvoir mener une enquête. Donc j'avais à la fois des migrants internes et des migrants internationaux dans ma population. Donc mon objectif à partir de cette population, c'est d'interroger la force des identités de papier, comme les a nommées Gérard Noiriel, identités de papier qui définissent un individu comme national ou comme étranger, et d'essayer de voir quelle était l'influence de ces identités de papier sur le cours des trajectoires professionnelles dans cette période des années 60 aux années 90. Donc je vais passer assez vite sur le matériau qui a composé mon travail. Vous en dire deux mots quand même, je me suis fondée sur les dossiers de retraite qui sont une source traditionnelle dans les enquêtes de mobilité sociale, puisque ça permet de retracer toute la vie, la carrière d'un individu. Mais j'ai croisé en fait cette source traditionnelle avec une autre source moins utilisée que sont les déclarations faites par les employeurs à l'URSSAF et qui permettent de retracer toute la vie des entreprises françaises depuis les années 60, dans toute leur complexité, année par année. Donc, grâce à ces deux sources, j'ai reconstitué des trajectoires d'un échantillon de à peu près 200 personnes nées en Tunisie entre 1903 et 1938. Donc, très rapidement, en croisant ces deux sources, je me suis rendu compte que l'approche habituelle, l'approche habituelle et les idées que j'avais dans la tête avant de commencer mon travail, c'était que les différences de trajectoire, j'allais en observer forcément, mais que ces différences de trajectoire étaient sûrement liées à des différences de qualification, de formation initiale des individus, ou à des différences de configuration familiale. Donc je cherchais des éléments de réponse spontanément dans l'histoire des individus et dans les différences, enfin les qualités différentes des individus. Or, mon travail m'a amené petit à petit à me rendre compte que ce qui était central, ce n'était pas du tout ces caractéristiques individuelles de formation ou de trajectoire familiale, etc. Mais au contraire, c'était l'influence déterminante était celle de l'espace de travail dans lequel vous vous insérez. Donc ça, ça a été vraiment le résultat central qui m'a conduite en fait à travailler sur les analyses proposées par les économistes et les sociologues du marché du travail, et notamment par les théoriciens du dualisme du marché du travail, qui distinguent traditionnellement un segment primaire d'emploi plutôt favorisé d'un segment secondaire d'emploi plutôt défavorisé. Donc moi, dans mon travail, j'ai adopté une segmentation tripartite entre un segment primaire, un segment secondaire et un segment intermédiaire des petites entreprises qui ont un comportement un peu différent. Donc, pendant les Trente Glorieuses, ce segment primaire, qu'est-ce que c'est ? C'est un segment qui est constitué d'emplois relativement stables et bien rémunérés, et ça correspond à cette époque aux grandes entreprises qui mettent en œuvre un rapport salarial de type fordiste. Et l'exemple, l'archétype, c'est effectivement l'industrie automobile, l'industrie de la construction automobile. À l'inverse, le segment secondaire, c'est un segment qui est composé d'emplois instables, mal rémunérés, mais qui peuvent être des emplois très qualifiés, comme notamment dans le BTP, où vous pouvez donc avoir un emploi très précaire, mais assez qualifié. Donc, bon, je passe sur le segment intermédiaire. Donc la conclusion principale de mon étude, c'était de dire que pour saisir la position sociale d'un individu, il ne suffit pas de lui demander le métier qu'il exerce, alors que c'est un réflexe qu'on a tous, qu'est-ce que tu fais dans la vie ? En fait, il faut aussi lui demander certes le métier qu'il exerce, mais surtout peut-être où est-ce qu'il exerce cette fonction, où est-ce qu'il travaille ? Puisque deux individus peuvent avoir exactement le même métier ou une qualification équivalente et ne pas du tout avoir la même vie. Donc là, je prendrai juste l'exemple des ouvriers nettoyeurs, des agents d'entretien qui sont nombreux parmi les migrants de Tunisie. Et on se rend compte que c'est le jour et la nuit entre la vie d'un agent d'entretien d'une collectivité territoriale type Mairie de Paris, alors qui a un emploi relativement stable, même très stable, et qui est relativement bien payé pour son niveau de qualification, ce qui le distingue très nettement d'un ouvrier en apparence similaire, qui est l'ouvrier nettoyeur des entreprises privées de nettoyage qui commence à se développer à grande vitesse à cette époque. Donc pour vous donner un exemple, dans ces entreprises du segment secondaire du nettoyage, les ouvriers changent 5, 6, 10, 15, parfois 20 fois d'employeur chaque année et perçoivent au final un salaire de misère puisqu'ils perçoivent des revenus salariaux annuels de l'ordre de la moitié du salaire ouvrier moyen de l'époque. Donc c'est quand même des différences énormes de l'un à l'autre. Donc on peut dire que cette segmentation du marché du travail, c'est la principale cause d'inégalité sur le marché du travail pendant les Trente Glorieuses, et c'est ça qui distingue les trajectoires de mes migrants. Donc sans surprise, comme on s'y attend, les femmes et les étrangers sont majoritaires dans les emplois les plus précaires, les plus instables et les moins rémunérés. Dans certaines entreprises du BTP qui constituent le gros du segment secondaire, les étrangers constituent parfois 80% ou plus que 80% de la main-d'œuvre employée par l'entreprise au cours de l'année. Donc toute la difficulté, c'est d'interpréter ce constat. Est-ce que cette inégalité de position, ces différences de position, sont le signe d'une discrimination envers les femmes et les étrangers ou pas ? Ou ce n'est pas un signe de discrimination. Donc pour répondre à cette question, il faut mettre en œuvre des modèles statistiques assez complexes, mais le résultat principal auquel ils permettent de parvenir, c'est qu'il n'y a pas en fait de discrimination directe entre les étrangers et les Français, et les femmes et les hommes. Ce n'est pas une discrimination directe qui explique les différences de salaire ou l'instabilité sur le marché du travail. Pour comprendre pourquoi les femmes et les étrangers se retrouvent tous sur les segments les plus instables, il faut en fait se pencher sur l'histoire des individus et sur l'histoire tout court pour comprendre comment les gens accèdent au marché du travail. En fait, le moment crucial, c'est le moment de votre entrée et le premier choix, le choix initial du secteur d'activité ou du type d'emploi que vous adoptez à ce moment-là. Donc c'est à ce moment que l'histoire des natifs de Tunisie joue un rôle crucial, et notamment dans cette histoire des natifs de Tunisie, les recrutements collectifs de travailleurs étrangers qui sont opérés massivement dans les années 50 et les années 60 vont modeler les contours des emplois qui sont occupés par les Tunisiens pendant les Trente Glorieuses en les orientant vers les secteurs d'emploi qui sont délaissés par les nationaux. Et parmi ces secteurs d'emploi, on a bien évidemment le BTP, qui est un des principaux secteurs d'emploi. Donc ces décisions institutionnelles initiales qui sont souvent prises de façon conjointe par l'État et par les employeurs ou par les organisations d'employeurs vont finalement dessiner une sorte d'ornière qui va ensuite s'appliquer de façon collective, puisqu'elle va s'appliquer non seulement aux migrants qui ont fait l'objet de ces mesures collectives, mais aussi aux membres de leur entourage qui les suivent, puisque c'est souvent par réseau qu'on migre. Donc pas de discrimination directe en termes de à salaire à emploi égal, salaire égal, peut-être pendant les Trente Glorieuses. Le problème, c'est que les emplois ne sont pas égaux et que, en plus de ça, l'analyse ne laisse aucun doute sur les phénomènes de discrimination qui sont à l'œuvre dans les mécanismes de mobilité. Donc à partir d'un poste donné, est-ce que vous avez la possibilité d'avoir une trajectoire ascendante ou pas ? La réponse est très claire. Sur le segment primaire, les étrangers comme les femmes vont se heurter à un plafond de verre qui les empêche d'accéder aux postes d'encadrement. Donc ces postes d'encadrement sont presque exclusivement réservés aux nationaux de sexe masculin. Donc s'il y a un espoir d'échapper à la figure de l'OS à vie décrite par Sayad, c'est en changeant de segment en fait et en allant sur le segment le plus précaire, le segment secondaire notamment, qui est certes précaire, mais la flexibilité est en quelque sorte compensée par les possibilités de promotion qu'offre ce segment de marché. Donc ça permet ainsi à de nombreux Tunisiens, puisque les Tunisiens sont de façon écrasante majoritaire sur ce segment, ça leur permet de se hisser à des niveaux de qualification très élevés puisqu'ils arrivent au niveau de chef d'équipe ou de chef de chantier dans le BTP. Donc je laisse là encore de côté le segment intermédiaire, je n'ai pas le temps de m'y arrêter. Donc ce qu'on peut dire, c'est qu'il s'agisse de ces mesures institutionnelles qui encadrent l'accès à l'emploi et l'accès au marché du travail, ou qu'il s'agisse de la discrimination en matière de mobilité professionnelle, les décisions qui sont prises par les acteurs du marché du travail, État et employeurs, reposent finalement toutes sur un jugement qui est porté sur la qualification de l'individu, moins en fonction de ses qualités personnelles propres qu'en fonction de qualités qui sont attribuées à son groupe social de référence. Donc dans le cas des originaires de Tunisie, cette hiérarchie des populations qui se dessine, elle est en grande partie héritée de la hiérarchie coloniale. Mais les analyses que j'ai menées montrent que le principal critère de hiérarchisation, avant ces différences internes aux étrangers, c'est quand même la distinction entre les nationaux et les non-nationaux, qui dessine des cercles de proximité plus ou moins grandes avec le travail manuel ou non manuel, et le travail public, l'espace public et l'espace privé. Donc c'est vraiment cette frontière nationale-étranger qui oppose principalement les trajectoires sur le segment pendant les Trente Glorieuses. Donc ça, cette forme de segmentation que j'ai décrite dans mon travail, ça correspond à un moment particulier de l'histoire qui dure finalement le temps de la croissance économique et qui va s'arrêter avec la crise des années 70, où on a une transformation des règles de fonctionnement du marché du travail, une transformation des figures de la flexibilité qui va être de moins en moins liée au type d'entreprise dans lequel on travaille et de plus en plus liée au type de contrat de travail qu'on possède. Donc la modification de cet équilibre pour des travailleurs qui sont vieillissants dans ma cohorte d'analyse, ça a des effets très différents selon le segment sur lequel on travaille. Et donc si je résume de façon un peu rapide, sur le segment primaire, les fins de carrière sont marquées du sceau de la retraite anticipée. Donc c'est la mise en retraite anticipée ou en chômage de longue durée ou en longue maladie de la plupart des ouvriers des industries fordistes touchées par la crise. Donc, dans ce contexte-là, les Tunisiens de mon échantillon sont plus nombreux que les Français de Tunisie à être ouvriers, à être employés dans les secteurs industriels. Ils sont donc plus nombreux à être touchés par le chômage et par ces mesures de mise d'éviction du marché du travail. Sur le segment secondaire, où là, je rappelle, la plupart des salariés sont étrangers, les trajectoires se terminent aussi par une forme d'éviction anticipée du marché du travail, mais bien plus brutale, puisque ça se traduit par un retour anticipé dans le pays d'origine, qui est un phénomène massif, beaucoup plus massif que ce à quoi je m'attendais avant de commencer mon travail, puisque ce retour anticipé en Tunisie va concerner les trois quarts des Tunisiens du segment secondaire. Donc c'est vraiment des milliers de personnes qui partent à ce moment-là. Donc la segmentation du... Ouais. Donc j'ai pas le temps de passer, je passe sur les possibilités d'échapper à cette forme de fatalité entraînée par la segmentation du marché du travail et sur les possibilités, notamment pour les Tunisiens, d'échapper à la crise en se repliant sur le travail indépendant. Donc ça, je n'ai pas le temps de le développer, mais pour conclure, si j'ai deux mots à dire par rapport à cette question de l'intégration telle que je l'observe sur le marché du travail pendant les Trente Glorieuses, on peut dire que En fait, contrairement à ce qu'on dit beaucoup, les mécanismes d'intégration ne se sont pas grippés dans les années 80 ou 90. En fait, ils se sont grippés bien avant, puisque dès les Trente Glorieuses, le fonctionnement du marché du travail est déjà segmenté, discriminatoire, enfin, comme on voudra. Et il semble bien que la grande différence entre l'entre-deux-guerres et les Trente Glorieuses, c'est ça, c'est cette forme de rigidification de la segmentation du marché du travail. Alors que dans l'entre-deux-guerres, la structure dominante, c'était la petite entreprise qui apparemment permettait une meilleure, une plus grande fluidité et une moins grande distinction entre les étrangers et les nationaux. Voilà, merci.
Merci. Si je résume en quelques mots quelques éléments que vous venez de livrer, vous nous dites, à travers cette expérience, qu'il n'y a pas de concurrence sur les secteurs d'emploi délaissés par les nationaux, entre étrangers et nationaux. C'est un élément sur lequel on pourra revenir. Vous nous dites également qu'il n'y a pas de discrimination directe et que finalement la frontière se situe entre nationaux et étrangers. Je voudrais simplement vous indiquer que dans l'assiette des emplois disponibles, il y en a quelques 6 à 7 millions qui ne sont pas possibles à intégrer pour les étrangers non communautaires. Je parle de tous les emplois de la fonction publique, et je parle d'une cinquantaine de professions réservées qui sont ouvertes aux Européens, mais pas nationaux. Puis vous nous dites un troisième élément, que les mécanismes d'intégration se sont grippés bien avant les décennies 90 et 80. Et de ce point de vue, d'une certaine manière, vous interrogez ce que l'on a l'habitude d'appeler le modèle républicain d'intégration. Êtes-vous sûr qu'il est si grippé que cela? Nous y reviendrons. Donc nous voyons bien, nous avons deux débats. Un débat sur les flux qui arrivent, comment, flux continue, où s'installe-t-il? C'est une question qui renvoie au chemin de la mobilité une fois qu'on est arrivé ici et aux politiques d'accueil et aux politiques d'intégration. Je crois qu'à ce premier niveau de débat, on peut peut-être se tourner vers la salle pour une de première réaction avant de poursuivre sur deux aspects, sur les politiques d'accueil et sur le système de gouvernance où, Madame de Vanden, vous avez affirmer un certain nombre de choses qui questionnent à la fois la souveraineté des États, la citoyenneté. Et vous avez lancé un certain nombre de débats très lourds sur lesquels nous pourrons évidemment revenir. Alors, on prend deux ou trois questions. C'est toujours la première qui est difficile. Donc nous passons tout de suite à la seconde. Voilà. Monsieur, une question.
C'est plutôt vous demander une précision. Vous nous avez dit 3% de migrants, c'est-à-dire 200 millions. Mais par combien de temps? C'est pas par an, je pense. Je pense que c'est plutôt au total. Mais alors, est-ce qu'on appelle un migrant? Qu'est-ce qu'on appelle un migrant, finalement, ma question? Jusqu'à la fin de sa vie, est-il migrant? Jusqu'au retour au pays? Voilà ma question. Qu'est-ce qu'on appelle un migrant?
Merci. Une autre question. On va peut-être prendre deux, trois questions d'abord. Et puis, ensuite, vous indiquez aussi à qui ça s'adresse. Une autre question? Non? Bien.
Non.
Alors?
Alors, on a des définitions très précises, en fait, de l'INSEE, du migrant, de l'étranger et du national. Le migrant, c'est une définition géographique et sociologique. C'est quelqu'un qui est né dans un autre pays que celui où il vit. Donc il y a des nationaux qui sont des migrants et il y a des étrangers qui n'ont jamais migré. Donc ça, c'est un premier élément. Donc le migrant international, qui est souvent un étranger quand même, c'est quelqu'un qui est né dans un autre pays que celui dans lequel il vit. L'étranger, c'est le non-national, et puis après, il y a les nationaux qui vivent dans le pays où ils sont nés.
Voilà. Merci pour ces précisions. Sur les 3%, c'est très clair,
62 millions de migrants sud-nord.
Qui vont donc vers les pays de l'OCDE. Parmi ces 63 millions, c'est sur une décennie.
C'est en stock. Aujourd'hui, comme gens qui sont comptabilisés comme migrants sud-nord, qui vivent dans un autre pays que ceux où ils sont nés.
Et en Europe, nous avons environ
30 millions de migrants internationaux, dont entre 7 millions à peu près de migrants européens.
Donc 23 millions de personnes venant d'une autre contrée que les 27 pays de l'Union. Et on peut comme ça encore descendre. En France, c'est aux environs...
On a 3,5% d'étrangers. On a un peu plus de migrants. On a 6 millions de migrants en France. En fait, ces 3,5%, ça représente à peu près 6,5% de la population totale.
Voilà. Je me tourne peut-être avant de revenir vers le public, vers Anne-Sophie Bruneau, sur cette question de la discrimination que représentent les emplois réservés. Vous pouvez aborder cette problématique,
cette question
qui est souvent oubliée et mal connue.
Donc effectivement, cette question, elle est centrale dans la façon dont on construit un marché du travail segmenté, discriminatoire ou ce qu'on veut, enfin la façon dont on veut l'appeler. C'est effectivement cette fermeture de fait ou de droit d'une grande partie du marché du travail. Dans les années 90, on estime que c'est un tiers de l'emploi en France qui est fermé aux étrangers, non communautaire après, pour des raisons justement de réglementation ou carrément de fermeture. Donc il y a bien évidemment la fonction publique, mais il n'y a pas que la fonction publique, il y a un grand nombre d'organismes publics ou qui participent de la puissance publique qui sont fermés aux étrangers. Donc un des réflexes, ça peut être de dire, c'est pas très grave parce que les emplois qui sont fermés, alors il y a dans les emplois réservés, il y a aussi tous les emplois réservés pour conditions de diplôme ou pour conditions de nationalité stricte, notamment dans les professions libérales. Donc ça, c'est un long travail de construction depuis la fin du 19e siècle, la construction de cet emploi, marché du travail fermé. On peut dire que c'est l'extension progressive de ces emplois fermés de droit ou de fait dans le stock global des emplois, ça contribue aussi à gripper les mécanismes d'intégration après 1945, où on a un très fort développement de l'emploi public, parapublic ou fermé aux étrangers. Donc réflexe, c'est de se dire, c'est des emplois souvent très qualifiés, donc de toute façon les étrangers n'auraient pas pu y accéder. Bon, ça c'est absolument faux, puisque parmi les gens qui viennent travailler en France dans les années 50-60, certains sont déjà très qualifiés, mais ils n'ont pas, donc j'ai deux enquêtés avec qui j'ai fait des entretiens oraux dans mon travail, une qui est française de naissance, l'autre qui est devenue français par acquisition, mais trop tard, pour que ça ait une incidence sur sa carrière professionnelle. Tous les deux sont professeurs, ont un niveau bac plus 5, mais il y en a un qui est français d'origine, qui fait sa carrière dans la fonction publique, et l'autre qui travaille aussi dans l'enseignement, mais qui en fait travaille dans l'enseignement privé, parce qu'il n'a pas de moyens de titularisation, sauf à rester très longtemps dans l'éducation nationale pour être titularisé, alors qu'il travaille comme maître auxiliaire. Donc finalement, il se replie sur un type d'emploi qui est un emploi dans une boîte privée qui accueille beaucoup d'enfants originaires d'Afrique du Nord. Donc on peut dire que c'est un repli sur l'emploi communautaire, mais en fait ce repli sur l'emploi communautaire, c'est parce qu'il n'avait pas d'autres moyens d'envisager des perspectives rapides de carrière. Et donc, dans les emplois, donc il y a des emplois qualifiés qui pourraient être occupés par des étrangers, mais qui ne le peuvent pas, sauf à être sur des statuts spécifiques, type maître auxiliaire dans l'éducation nationale, et c'est encore vrai, encore plus vrai au niveau des emplois non qualifiés. Donc, les éboueurs de la mairie de Paris, notamment, mais de toutes les collectivités territoriales, sont étrangers et travaillent dans des collectivités territoriales, mais ils sont employés sur des emplois de statut, enfin de droit privé. Ce qui enfin, les empêche d'avoir un certain nombre de des avantages qu'ils auraient s'ils étaient d'un statut de collectivité territoriale. Donc ça, c'est vraiment une dimension centrale qui, à mon avis, fait que, enfin voilà, il y a eu une aggravation de ces phénomènes de discrimination après 1945.
Merci. À titre d'exemple, je crois me souvenir que la profession, par exemple, de débitant de tabac est réservée aux seuls nationaux, héritage du Second Empire, oui, où les débitants de tabac relevaient aussi un certain nombre de taxes et d'impôts, et donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, toujours, cette profession n'est pas ouverte aux étrangers non communautaires. Des questions dans la salle ? Non ? Madame de Vanden, tout à l'heure, vous avez... si, une question ? Pardon.
Très bien.
Très bien.
J'aurais voulu savoir si, en tant que politologue, vu que de toute façon, on sait que dans les prochaines années... Ça va être en milliards, les flux migratoires sur la planète, je crois. Hein, c'est...
On a essayé de vous dire autre chose depuis le début. Ça veut dire qu'on n'a pas été suffisamment pédagogique. Mais je vous en prie, madame.
Ah,
allez-y.
Non, attendez, j'ai honte. Peut-être que je n'ai pas
compris. Non, non, n'ayez pas. Si. Je vous en prie. Allez-y.
Bon, vous rectifierez. Peut-être que je vais dire des grosses imbécilités, mais c'est pas grave. Tant pis, maintenant que j'y suis. C'était juste que par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui, de phénomènes de société... par rapport aux politiques, entre guillemets, tout ce qu'on entend par rapport à ce qui s'est passé, ce qui se passe dans le bassin méditerranéen avec la Tunisie, l'Égypte, et qu'on parle de gens comme des immigrés, alors que c'est la question de l'exil qui se pose, quoi. Le gouvernement raconte n'importe quoi. Je voulais savoir s'il y avait, vu qu'il y a des gens comme vous qui réfléchissent extrêmement bien à tous ces problèmes depuis très longtemps, est-ce qu'il y a... un désir des gouvernements de travailler comme ça avec des gens comme vous pour avancer, pour créer de la possibilité et peut-être pour arriver, chose qui serait formidable, à ce statut dont vous avez cité mobilité, qu'on puisse un statut de la mobilité comme un statut de citoyen, quoi. Des droits de la mobilité. Voilà.
Est-ce que vous êtes consulté ?
Non, très peu par les... pouvoir public français, quasiment pas, hein, jamais, en ce moment, en tous les cas. Mais dans des débats, effectivement, parfois, il y a des débats dits contradictoires, aussi bien dans des tribunes comme celle-ci, ou alors à la radio, à la télévision, il y a parfois des débats où on oppose, hein, un chercheur à un praticien, comme on dit, quelqu'un qui est un décideur. C'est un domaine pour lequel il n'y a pas beaucoup de dialogue, il n'y a pas beaucoup de consensus. Et le chercheur, c'est une très bonne question que vous posez, est considéré un peu comme une sorte de rêveur. Alors, je ne sais pas si ça se passe de la même façon pour la biologie ou pour des secteurs considérés comme des sciences encore plus dures. Mais ce que l'on constate, c'est que dans ce domaine-là, on est dans l'affectif. Les gens considèrent que tout le monde a son... La parole d'un tel est aussi légitime que la parole d'un autre en la matière. Et le vrai problème du chercheur dans ce domaine-là, c'est de convaincre. On n'arrive pas à convaincre. Et ce qui est assez frappant, c'est que quelles que soient les orientations politiques des uns ou philosophiques, des uns ou des autres, on est tous d'accord. C'est-à-dire que le rapport de l'OCDE, le rapport du PNUD, du Programme des Nations Unies pour le Développement, qui dit en 2009, la mobilité est un facteur essentiel du développement humain. On peut se demander ce que font les politiques migratoires avec une telle déclaration. Les forums mondiaux qui essayent d'avoir une gouvernance mondiale des migrations en disant c'est un sujet trop important pour qu'on en discute, pour qu'on laisse aux seuls États d'accueil le monopole de la définition des politiques migratoires. Donc, en fait, on a l'impression que l'État se crispe autour de son opinion publique, de sa souveraineté face à tout ce qui se joue à l'échelle mondiale. Et à l'échelle mondiale, ce qu'on peut constater, c'est que ce n'est pas l'invasion, comme on l'a dit. On a 1 milliard de gens qui sont en situation de mobilité, effectivement, puisqu'on a des migrants internes, des migrants internationaux, sur un peu plus de presque 7 milliards aujourd'hui. Mais en même temps, les flux sont, et on l'a vu avec ce qui s'est passé en Tunisie ou en Libye, les flux sont régionalisés. Paradoxalement, dans un contexte où les migrants à l'échelle mondiale se sont globalisés, c'est-à-dire les mêmes causes produisent les mêmes effets, on a presque tous les pays du monde sont dans cette dynamique de migration, en même temps les flux ils sont de plus en plus régionalisés. Si vous regardez par exemple le continent américain, aujourd'hui dans presque tous les pays sauf le Canada, les migrants du continent américain, ils viennent du continent américain. Si vous regardez le monde russe, la plupart des migrants du monde russe, ils viennent de l'ex-URSS. Si vous regardez les pays du Golfe, il y a une sorte d'espace migratoire avec la rive sud de la Méditerranée et le Pakistan. Si vous regardez l'Europe, elle est dans une sorte de synergie migratoire avec la rive sud de la Méditerranée jusqu'à l'Équateur. L'Afrique du Sud, à l'inverse, absorbe plutôt les flux qui sont au sud de l'Équateur. L'Asie du Sud-Est est un autre espace migratoire. Donc en fait, ces flux, ils sont à la fois mondialisés et régionalisés. Ce que l'on dit, ce qui est en général des conclusions relativement mesurées, n'est pas du tout entendu par les pouvoirs publics qui crient à l'affolement, à l'invasion, à la disparition de l'État face aux flux migratoires. On a un discours de conquête, en fait, alors qui ne correspond pas du tout à la réalité des flux aujourd'hui. La plupart des gens, à l'échelle mondiale, les 2/3 de la population de la planète n'ont pas le droit de circuler librement parce qu'ils sont soumis à des visas. Et en même temps, on dit que le droit à la mobilité est un droit de l'homme du 21e siècle. Donc, il y a quand même des contradictions essentielles.
Merci de cette réponse. Tout de même, je vais vous poser un certain nombre de questions parce que vous l'avez dit vous-même, vous êtes dans la ligne des différents rapports internationaux, CDE, Programme des Nations Unies pour le PNUD, qui explique par exemple dans sa dernière livraison que quand la crise sera terminée, les pays de l'OCDE auront besoin d'immigration et que dès lors, l'heure n'est pas au protectionnisme. Cela étant, ça s'inscrit dans des stratégies de long terme. On peut comprendre aussi que le court terme puisse dominer avec un certain nombre d'inquiétudes de la population qui se trouve à tort ou à raison, en concurrence avec un certain nombre de populations. Vous êtes également situé dans un courant qui est proche des forums mondiaux, des migrations et développement, Mani, Dakar. Bon, très bien. Vous n'avez pas l'impression de sauter quand même un peu rapidement par-dessus les frontières? Après tout, les frontières, elles excluent, mais elles protègent aussi dans un certain nombre de cas. On le voit bien, là, récemment, il suffit de porter son regard de l'autre côté de la Méditerranée. Évidemment, ce n'est pas la même chose pour, par exemple, les gens de se trouver d'un côté ou de l'autre de la frontière libyenne. Autrement dit, quand vous posez la question de la gouvernance mondiale, alors même que cette gouvernance, et vous l'avez dit vous-même, patine au niveau européen, est-ce que vous ne donnez pas vous-même quelques éléments pour vous faire taxer d'angélisme?
Alors, je pense que les utopies, enfin, ça se dit souvent, hein, les utopies d'aujourd'hui sont les réalités de demain. Et je pense que la question migratoire, ça va être un sujet qui aura l'impact au XXIe siècle de ce qu'a eu la question de l'esclavage au XVIIIe et au XIXe siècle, parce qu'on a de plus en plus de morts dans les lignes de fracture du monde en Méditerranée, entre le Mexique et les États-Unis, et dans quelques autres régions du monde également, où le contrôle des frontières est extrêmement sévère. Et donc, En fait, je pense qu'on est dans une sorte non seulement d'esprit de fermeture, mais également d'aveuglement face à la situation, parce que on est dans une contradiction en fait entre les impératifs politiques et des impératifs économiques et sociaux et démographiques. Du côté politique, le politique il fonctionne à court terme, c'est-à-dire les échéances électorales, etc. Donc il faut trouver des solutions à très court terme. Donc à très court terme, on dit on va fermer les frontières, on va sécuriser, etc. C'est le mot d'ordre de l'Europe, mais en même temps, les politiques, ils se rendent compte aussi qu'il y a des enjeux à plus long terme qu'eux ne vont pas résoudre, peut-être les successeurs. La question du vieillissement des populations face à des populations jeunes. La question également de la concurrence pour les très qualifiés. Ça, c'est un sujet dont l'Europe est consciente parce qu'elle se dit que si elle ferme ses frontières, ben, elle va rater Einstein. C'est aussi un risque. Et face aux États-Unis, au Canada et à d'autres régions du monde où l'immigration est votée chaque année, les chiffres des nouveaux venus au Parlement, si on a une politique du tout fermeture, on risque de se mettre à l'écart de toutes les potentialités du monde en la matière. On a aussi des pénuries de main-d'œuvre, qualifiés, non qualifiés. On dit toujours qu'on manque de médecins, par exemple, en France et dans beaucoup de pays européens. Et on a aussi besoin de gens qui font les métiers très peu qualifiés, qui sont délaissés par les nationaux dans le contexte de la segmentation du marché du travail. Et ce que dit le directeur général de l'OCDE dans le rapport de l'année dernière, c'est que dans tous les pays d'accueil, les métiers les moins qualifiés sont remplis par des sans-papiers. Et ça, c'est très intéressant. Ce n'est pas un homme d'extrême gauche, le directeur général d'OCDE, je ne pense pas, je ne le connais pas, mais j'ai vu son introduction. Ça veut dire qu'en fait, les pays d'accueil n'arrivent pas à convaincre leur opinion publique que les métiers les moins qualifiés ont leur place et devraient être remplis par des gens qui ont un statut. Donc ça, c'est un grand sujet, la question du statut des migrants, des travailleurs migrants. Il y a une convention qui a été proposée à la signature par les Nations Unies en 90, qui pour l'instant n'a été signée que par 44 pays, tous du Sud. Les pays du Nord boudent de cette convention, qui n'innove nullement, qui reprend les droits des migrants partout où ils existent, parce qu'elle reconnaît certains droits ou sans-papiers. Donc, et les pays du Sud, pour ceux qui sont devenus des pays de transit, sont pris un peu en étau entre les droits qu'ils voulaient faire reconnaître pour leurs nationaux et les droits qu'ils sont plus ou moins tenus d'appliquer pour les gens qui arrivent chez eux. Et donc ça, c'est aussi une contradiction très forte. Donc il y a une contradiction. Ce qui est désirable économiquement ne l'est pas politiquement. Donc il y a une contradiction entre les deux ordres de décision, entre le court terme et le long terme. Et dans un contexte où aujourd'hui, et c'est quand même assez paradoxal, où seuls les pays d'accueil ont le monopole de la définition de qui entre et qui sort, des politiques migratoires. Dans le passé, ce n'était pas comme ça. Si on regarde le 19e siècle, les pays de départ étaient des pays puissants sur la scène internationale, puisque c'était des pays européens qui ont peuplé le monde, les grandes découvertes, puis ensuite ça a été la colonisation, les missions, le commerce, le peuplement des terres inoccupées, etc. Donc les pays de départ étaient des pays puissants qui pouvaient fermer leurs frontières ou les entrouvrir pour leurs nationaux. La plupart des gens, d'ailleurs, n'avaient pas le droit de sortir de chez eux. C'était difficile de sortir de chez soi. Aujourd'hui, il y a eu une sorte de libéralisation du droit de sortie, alors que le droit d'entrée, tenu par les pays d'accueil, qui sont des pays puissants sur la scène internationale, donc les choses se sont inversées, est devenu de plus en plus difficile. Donc autrefois, c'était facile d'entrer quelque part, mais difficile de sortir de chez soi. Aujourd'hui, il est facile de sortir de chez soi, mais il est difficile d'entrer quelque part. Et les pays d'accueil sont des pays puissants, alors qu'à l'époque, ils étaient relativement faibles sur la scène internationale. Et aujourd'hui, les pays de départ sont au contraire des pays faibles. Donc le contexte international s'est complètement inversé en la matière.
Très bien. Sur des questions ?
S'il vous plaît, je vais vous demander d'attendre le micro. Merci. J'ai eu l'occasion de voyager d'Afrique, d'Europe et d'Amérique latine. C'est vrai que de façon générale, c'est difficile de venir en Europe, mais aussi d'aller dans ces autres pays. Ils taxent aussi les gens qui viennent des pays dits riches. À leur niveau, comparé à un visa européen, ça ne vaut rien. Mais pour qu'un lambda de là-bas, ça vaut aussi son prix. Maintenant, au niveau des migrations, je me demandais, parmi tous ces rêveurs, est-ce que vous discutez parfois du partage des richesses, des ressources naturelles qui sont un peu les causes des migrations? Je ne dis pas du tourisme pour découvrir des pays, mais plus des migrations économiques.
Nous allons y revenir. Une autre question? Juste avant de... On répondra à votre question sur la problématique des ressources et du partage des ressources. Ce qui fait que d'ailleurs, en démocratie, on doit délibérer sur cette question et que quand la ressource se fait rare, ou en tout cas moins abondante, cela peut provoquer un certain nombre de réactions. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe aujourd'hui dans la plupart des pays européens et qui doit nous interroger aussi. Autrement dit, derrière la question de la liberté de circulation qui est souvent posée, je rappelle aussi souvent qu'il y a celle de l'installation qui, évidemment, pose d'autres débats. Sur les politiques d'accueil, est-ce que, à travers l'étude que vous avez menée, il y a des axes qui vous paraissent devoir être développés? On a parfois parlé d'ouverture à certaines du marché du travail, à certaines nationalités. On a parlé de quotas. Vous avez un avis sur cette problématique?
Alors, il me semble en effet que dans le débat public, ce qui souvent domine, c'est l'esprit de fermeture dominé par des conjonctures politiques à court terme, ça c'est sûr. Alors qu'au fond, tous les hommes publics savent bien que la question est moins l'ouverture totale des frontières versus fermeture totale des frontières que celle des conditions d'ouverture et de la transparence des critères. Donc il y avait un débat qui avait commencé à s'initier en France, il y a de ça déjà quelques années, sur les
2007,
et qui a en fait tourné autour des quotas. Est-ce qu'il faut
la
des quotas
Mazot
d'immigration? Alors, sur cette question des quotas, moi, je trouve qu'il y a eu beaucoup de choses fausses qui ont été dites, avec le fameux mythe qu'en France, on n'a jamais fait de quotas, on n'a jamais fait de sélection ethnique. Alors, ça n'a jamais été massivement la sélection ethnique, sauf que, déjà, il y a toujours eu des tendances, enfin, ce débat sur est-ce qu'il faut choisir les origines des gens qu'on accueille, c'est toujours une tendance qu'on a observée, notamment à la libération au moment du débat sur l'ordonnance de 45. Il y a eu un débat très fort sur est-ce qu'il fallait sélectionner ethniquement les migrants ou pas. Ça a été rejeté, certes, mais c'est réapparu par la bande, puisque, en fait, les accords bilatéraux, c'était ça qui dominait toutes les Trente Glorieuses, et on choisissait avec quel pays on signait, et on préférait signer avec l'Italie. Enfin, il y avait voilà, des ordres de préférence. Donc je trouve qu'on est finalement dans un contexte assez proche de celui de la libération, même si ce n'est pas un contexte de croissance économique généralisée. Mais on sait qu'on va avoir besoin d'ouvrir pour des raisons économiques et de faire appel à l'immigration pour des raisons économiques. Et la question, effectivement, c'est celle de la concurrence entre les pays européens, puisqu'il y a une concurrence très nette. Alors, en 1945, déjà, la France avait loupé pas mal de coches, puisque notamment, il fallait beaucoup d'ouvriers pour les mines, alors de mineurs très qualifiés. Et la France a tellement traîné des pieds qu'en fait, les plus qualifiés, notamment les Italiens, avaient été partis en Belgique et en Angleterre avant de venir en France. Donc voilà, donc finalement, je trouve que le débat actuel, il est pas si nouveau que ça dans ces termes. Mais voilà, il y a un débat public à avoir sur qu'est-ce qu'on met comme critère ou pas d'ouverture, comme condition d'acceptation. Et il y avait une solution qui était de choisir en fait les gens selon leur origine, ou alors de faire une forme de sélection naturelle, ce qui était un autre élément du débat en 2007, qui était ceux qui sont arrivés et qui sont restés suffisamment longtemps, on va les régulariser de façon un peu plus massive. Bon, je sais pas, enfin moi j'ai pas d'avis, enfin j'ai peut-être un avis, mais en tout cas je suis pas là pour le donner, mais en tout cas. Bon, ça fait écho à beaucoup de choses qu'on a déjà entendues depuis très longtemps. Quoi.
Oui, je crois qu'il y a là, dans la problématique que vous posez, plusieurs débats en réalité. Il y a eu effectivement en 2007, autour de l'immigration de travail et de la thématique de l'immigration choisie, un débat pour savoir s'il fallait imposer des quotas par nationalité. Fort heureusement, la commission Mazeau a refusé au nom d'un certain nombre de principes républicains. Après, sur la question de la sélection naturelle, mais j'ai envie de dire en forme de boutade qu'elle est déjà faite et que d'une certaine manière, les politiques européennes qui sont à l'œuvre, de fait, arrivent à sélectionner pour ceux qui partent irrégulièrement les plus malins, les plus forts, et ceux qui résistent le plus en termes de stratégie, évidemment. Alors, après, je pense qu'il faudrait aussi éclairer le débat sur les différentes catégories de flux migratoires. On l'a peut-être pas encore suffisamment fait. Parce que je voudrais rappeler que ce débat autour de l'immigration de travail, tel qu'il était posé en 2007, il faut savoir que si on prend les catégories statistiques qui nous sont données aujourd'hui, en réalité, par exemple, l'année dernière, on va avoir environ 25 000 personnes qui sont censées être rentrées sur le territoire national à des fins de travail. En réalité, c'est même plus compliqué que ça pour savoir qui on classe dans cette catégorie. Mais je rappelle qu'il y a des flux qui, chaque année, arrivent au titre de différentes autres catégories juridiques. Vous avez parlé tout à l'heure des demandeurs d'asile. Ça correspond à une convention internationale bien précise qui a été ratifiée, écrite après la Seconde Guerre mondiale, la Convention de Genève. Vous avez d'autres flux qui sont ceux autour de l'immigration familiale qui suscite beaucoup d'attention des politiques publiques depuis un certain nombre d'années. Or, dans ces migrations familiales, rappelons-nous qu'il y a, par exemple, une grande part de migration liée au mariage entre Français, par exemple, et non-européens. Un peu plus de 40 000. On classe aussi dans l'immigration familiale le regroupement familial, c'est-à-dire la possibilité pour une personne séjournant régulièrement sur le territoire national de faire venir son conjoint, sa conjointe et ses enfants. Ça concerne aux alentours de 14 000-15 000. Donc voilà, le débat est autour des migrations de travail est un débat tout à fait factice, parce que les personnes qui rentrent sur notre territoire au titre de l'immigration familiale ont tout à fait vocation à aller sur le marché du travail, et à l'inverse, les gens qui viennent au titre du travail ont évidemment vocation aussi à vivre en famille. Donc on voit bien combien les catégories sont extraordinairement instrumentalisées. Madame de Vanden.
Oui, c'est vrai qu'on a de plus en plus des catégories qui s'estompent. Dans les années 50, c'était assez simple sociologiquement de distinguer le demandeur d'asile dans un contexte d'ailleurs d'affrontement entre les deux blocs. Et les pays d'accueil étaient beaucoup moins regardants sur les faisceaux d'indices, comme on dit, qui pouvaient déterminer si c'était quelqu'un qui avait un profil de réfugié ou pas. Parce que si on venait d'un pays communiste, par exemple à l'Ouest, on considérait que c'était le profil idéal du demandeur d'asile. Et à l'inverse, si cette personne demandait refuge dans un pays communiste, si elle fuyait une dictature, on considérait que c'était le réfugié idéal. Et par ailleurs, les ouvriers spécialisés décrits par Anne-Sophie Bruno avaient des profils sociologiques complètement différents, dans la plupart des cas, des réfugiés. Donc les choses étaient assez fortement distinctes et pendant longtemps, les migrants étaient des hommes seuls, jeunes, qui n'étaient pas toujours rejoints par leur famille. Donc il y avait beaucoup moins de regroupements familiaux. La fermeture des frontières en Europe à partir des années 74 a accélérer le regroupement familial et donc a commencé à brouiller un petit peu les catégories parce que les gens venaient, ne pouvaient plus faire des allers-retours comme ils faisaient auparavant avec leur pays d'origine et donc ils ont commencé à s'installer. Donc on a eu déjà un premier brouillage des catégories et aujourd'hui c'est encore plus vrai puisque les gens sont de plus en plus qualifiés, de plus en plus urbains. Ils viennent parce qu'ils ne sont pas toujours d'accord avec la situation politique dans leur pays, mais aussi pour chercher du travail, parce que souvent les pays mal gouvernés sont aussi des pays pauvres dans le contexte actuel. Et donc, autre confusion aujourd'hui entre la migration forcée et la migration volontaire. C'est une des grandes catégories cardinale de la migration qu'on a l'habitude d'enseigner. Aujourd'hui, cette distinction est elle-même floue. Parce que, par exemple, on va prendre un cas qu'on n'a pas encore présenté ce soir, les déplacés environnementaux. Bon, on prévoit, les experts du climat prévoient 150 millions environ de déplacés environnementaux à la fin du siècle. Est-ce que c'est une migration forcée ou une migration volontaire ? Difficile à dire, parce que beaucoup anticipent la situation qui est la leur là où ils se trouvent, pour migrer, soit comme potentiels réfugiés, mais pour l'instant, la Convention de Genève refuse de considérer que c'est des réfugiés, parce que ce n'est pas des politiques au sens propre du terme. Et en même temps, ce sont des gens qui sont forcés par le contexte dans lequel ils se trouvent de quitter leur pays ou leur région. Donc là aussi, les catégories sont de plus en plus floues. La grande difficulté qu'on a aujourd'hui par rapport aux grandes classifications des migrations, c'est ce brouillage des pays, des individus dans leur parcours, des migrants dans leur diversité, sachant que de plus en plus de gens aujourd'hui n'aspirent pas nécessairement à s'installer ailleurs. Ils aspirent à être mobiles. Aujourd'hui, la mobilité, c'est un critère de l'hypermodernité, si j'ose dire, à l'échelle mondiale. Tous autour, dans cette pièce, pour la plupart, aspiraient à la mobilité comme mode de vie. Et cette mobilité est fortement entravée pour les pays du Sud, alors que les autres considèrent que c'est un des attributs de l'homme moderne, si j'ose dire. Donc là, il y a aussi une contradiction essentielle. Et si les frontières étaient plus ouvertes, il y aurait plus de gens mobiles et il y aurait moins de sédentarisation aléatoire.
Des réactions ? Oui, pardon.
Alors, sur la question des catégories et des distinctions entre immigration de travail, immigration familiale et immigration politique, en fait, j'ai l'impression que le brouillage des catégories, il a toujours existé. C'est-à-dire que les gens ne sont pas dans une ou l'autre des catégories, mais en fait, ils choisissent la catégorie qui est la plus simple en fonction des conditions d'accueil du moment. Bon, je prends l'exemple, par exemple, des Portugais, des Espagnols pendant les Trente Glorieuses qui rentrent dans le cadre de l'immigration de travail massive. En fait, parmi eux, il y avait beaucoup qui étaient des réfugiés politiques au sens des motivations de leur départ, puisque, vous le savez, pour les Portugais, une grande partie de ceux qui sont venus à la fin des années 60, au début des années 70, fuyaient en fait la guerre. Les guerres coloniales. Donc, pourquoi est-ce qu'ils choisissaient de se faire enregistrer comme immigrants de travail ? Parce que c'était le plus simple, c'était la procédure la moins longue, finalement. Ils n'avaient pas de problème, on leur donnait les papiers à la frontière, parce qu'il y avait un régime dérogatoire très favorable pour les Portugais. Idem pour les Espagnols, où une grande partie sont rentrés soit sous forme d'immigration familiale, d'immigration de travail, alors qu'en fait, c'était des réfugiés sous le régime de Franco. Donc, je pense que ce brouillage de catégories, il existe toujours, mais que quand on commence à essayer de dire est-ce que vraiment c'est un immigrant de travail ou un réfugié politique, c'est qu'en fait, il y a eu une crispation politique sur l'ouverture ou pas des frontières, quoi.
Alors, vous avez raison. Entre 1954 et 1974, le nombre de demandes d'asile moyennes par année déposées à l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides était d'environ 5 000. 5 000 par an, c'est-à-dire rien. Alors, vous avez, alors qu'il y avait des dictatures à nos portes, l'Espagne, le Portugal, vous l'avez rappelé, et également la Grèce. Il y a une autre raison, c'est et donc dans la mesure où le marché du travail absorbait l'ensemble de ces populations, la porte qui était prise généralement n'était pas celle de la demande d'asile, parce que également cette porte-là interdit de rentrer dans son pays. Et donc, pour un certain nombre d'Espagnols comme de Portugais, il était, puisque l'opportunité sur le marché du travail existait, il était tout de même plus simple passer par la porte du travail. Et il est vrai qu'à partir de 1974, avec le blocage de l'immigration de travail, à partir de ce moment-là, eh bien, l'autre porte semi-ouverte qui reste, c'est-à-dire la demande d'asile, va croître de façon extrêmement rapide. Je crois, très clairement ici, qu'il y a tout de même une différence qu'il faut garder entre la migration classique et ce qui relève de l'accueil au titre de persécution, des atteintes aux droits fondamentaux, et que même si les catégories sont brouillées, il est absolument indispensable de pouvoir conserver cet élément. Je vais peut-être me tourner vers la table avant de vous rendre. Oui, il y avait une question sur le partage des richesses.
Oui, je vais répondre.
Madame De Vanden.
Très rapidement, c'est une question tout à fait opportune, parce qu'aujourd'hui, ce que l'on constate, c'est que malgré la fermeture des frontières, il y a des quantités d'offres de voyages, si j'ose dire, plus ou moins coûteux, mais enfin, il y a des offres, et les gens sont informés à la télévision, par Internet, téléphone portable, etc., de ce qui se passe dans d'autres endroits qu'autour de chez eux. Et surtout, ils refusent la fatalité qui a consisté pendant des siècles à vivre dans un pays pauvre et mal gouverné. Ils considèrent qu'il faut gérer sa vie, se prendre en main, et si on veut changer de vie, ben, il faut changer d'horizon. Et c'est ça la grande différence avec le passé, c'est que l'individu se prend en charge pour quand il considère que chez lui, il n'y a aucun espoir de voir améliorer la situation sur place dans le court terme. Aujourd'hui, on est aussi dans un monde de plus en plus interdépendant, et ça, c'est très important. C'est-à-dire que si on a une politique qui consiste à piller les richesses, par exemple là-bas, eh bien, les gens vont venir ici. Et ça, c'est quelque chose que l'on constate. On parle de Chinois en Afrique, mais on pourrait donner l'exemple de beaucoup d'autres migrations qui viennent chercher des richesses naturelles. Par exemple, si on déforeste massivement telle ou telle région de l'Afrique centrale ou du Brésil, eh bien, ça va créer non seulement des problèmes environnementaux, mais aussi des gens qui n'auront plus de ressources et qui ensuite vont venir ailleurs. Donc, on commence à prendre conscience des causalités, en réalité, interdépendantes qui provoquent de la migration et des errements de politiques, de pillages qui ont pour effet la mobilité des hommes. Mais il y aurait encore beaucoup, beaucoup de concertations à mettre en place pour que on puisse maîtriser les interdépendances prédatrices qui créent des flux migratoires.
Vous vouliez rajouter une...
Oui, juste une phrase pour revenir sur... En fait, mon but, en rappelant que les catégories étaient brouillées, c'était pas de dire, enfin, de nier les spécificités de chacune, c'est de dire que le risque, c'était l'instrumentalisation par les pouvoirs publics des différentes catégories, sachant qu'en fait, le fait d'être classé dans telle ou telle catégorie vous donne plus ou moins de droits, en fait, notamment en termes de droits au séjour. Vous avez plus de droits si vous êtes reconnu comme réfugié politique. Si vous êtes reconnu sous un autre mode, vous pouvez avoir des titres de séjour temporaires ou de très courte durée qui sont renouvelés, qui permettent en fait de vous mettre dehors quand on a envie de vous mettre dehors. Donc en fait, c'est ça, c'est le risque sous-jacent, c'est cette instrumentalisation par les pouvoirs publics.
D'autres... Oui, madame.
Oui, à propos de l'asile, j'aurais quand même voulu avoir votre opinion sur le fait qu'aujourd'hui, il me semble que 95% des demandes sont déboutées par l'OFPRA. 85% si on considère après le recours.
Alors, la situation n'est pas bonne, mais il n'est pas nécessaire de l'exagérer. En ce qui concerne la France, le taux d'acceptation au statut de réfugié est de 30% environ. Ça veut dire que 70% des personnes qui déposent une demande d'asile sont déboutées de leur demande. Souvent, après une instruction qui est voisine en moyenne de près de 24 mois, ce qui ne va pas sans poser de problème et ce qui rend sans doute nécessaire une réforme globale du système d'accueil, mais c'est une autre question. Je voudrais simplement compléter ma réponse par une vision européenne. La demande d'asile a été quasiment, non pas la demande, l'acceptation et l'enregistrement des demandes d'asile a été quasiment divisé par deux en 10 ans. C'est-à-dire que dans l'Union européenne à 15, il y avait environ, au début des années, à la fin des années 90, début des années 2000, environ de 430 000 demandes d'asile. Dans l'Union européenne à 27, il en reste aux environs de 240 000, 250 000, suivant les années. Et pourtant, le nombre de conflits n'a pas diminué dans le monde. C'est-à-dire que les éléments de protection et de fermeture de l'Union aux frontières fonctionnent et dissuadent. Et ça renvoie à une autre notion qui est celle de la frontière à distance, de l'externalisation. Je prends un exemple. En octobre 2010, la Commission européenne se rend au nom des 27 en Libye pour signer un accord avec le colonel Kadhafi pour la surveillance des frontières et le contrôle des flux migratoires, moyennant 60 millions d'euros. Et cet accord, passé le 6 octobre 2010, fait suite à des accords bilatéraux entre l'Italie et la Libye. D'où aujourd'hui l'extrême panique qui a pris la plupart, qui a saisi la plupart des États européens et la difficulté de réponse face à la crise libyenne et du coup cette espèce d'angoisse projeté sur l'ensemble de la population avec cette promesse de déferlante en provenance de l'autre rive de la Méditerranée. Donc il y a, pour finir, une demande d'asile qui est importante en France, mais dans un flux global en Europe qui est en diminution et avec une inégalité d'accueil au sein de l'Union européenne, extraordinaire. C'est-à-dire qu'en réalité, on a supposé que les conditions d'accueil dans les 27 pays membres étaient égales. Il n'en est rien. Et je vais simplement, pour terminer cet élément, vous indiquer trois pistes de réflexion sur trois portes d'entrée dans l'Europe, la Grèce, la Pologne, et l'Espagne. L'Espagne, moins de 3 000 demandes d'asile, par exemple enregistrées l'année dernière. La Pologne, aux alentours de 8 000. La Grèce, 15 000. Alors que ce sont les portes d'entrée dans l'Union. Et tout simplement, les demandes ne sont pas enregistrées, et où on voit bien là la faillite, à la fois morale l'Europe. Ce n'est pas l'Europe qui est à accuser, parce que je pense qu'elle est nécessaire. mais la faillite morale de ceux qui conduisent aujourd'hui l'Europe et la disparité des conditions d'accueil dans les pays européens. Nous arrivons, je crois, quasiment au terme de notre débat, sauf si Emmanuel me dit autre chose.
Mais on peut peut-être demander au public s'il y a une autre question.
Eh bien, s'il n'y en a pas, je vais peut-être demander un mot de conclusion aux deux intervenantes. Non ?
Moi, je dirais que, en fait, la migration, c'est aussi vieux que le monde. Donc, il ne faut pas non plus dramatiser une situation en termes de sécurité, de défis, pour exacerber la situation. Je crois que le vrai enjeu, c'est moins les flux migratoires que la question du vivre ensemble. Parce que la plupart des pays d'accueil sont pris au dépourvu, ils ont beaucoup de mal à inventer des politiques, des façons de vivre ensemble. Il y a un philosophe qui s'appelle Sigmund Bauman, qui travaille sur la mondialisation, et qui dit que puisque la Terre est une sphère, on n'a pas d'autre choix que de vivre ensemble. Donc les gens vont nécessairement bouger. De plus en plus, ils voudront être des citoyens du monde. Ils supporteront de moins en moins d'être enfermés derrière des frontières. Et la circulation va se poursuivre dans les années, dans les décennies, peut-être dans les siècles qui viennent. Et donc le vrai enjeu pour la plupart des régions d'accueil dans le monde, ça va être d'arriver à vivre ensemble de façon harmonieuse, plus que de s'acharner à essayer de contrôler les flux migratoires, ce qu'on n'arrive pas à faire d'ailleurs.
Juste un mot, oui, pour ajouter que effectivement, la question migratoire, c'est aussi vieux que le monde, et du coup, beaucoup de problématiques, celles de l'interdépendance aussi, du pillage des ressources et tout, c'est des choses qu'on retrouve en fait avant, quoi. Donc je pense qu'effectivement, la question, c'est au niveau des politiques d'accueil, comment est-ce qu'on gère ces flux, comment est-ce qu'on les reconnaît. Enfin, un des progrès, entre guillemets, en France, c'est d'avoir déjà reconnu qu'on était un pays d'immigration, ce qui était le cas depuis très longtemps. Parce que je rappelle juste que dans les années 20, la France était le premier pays au monde devant les États-Unis en termes d'immigration. Donc c'est aussi vieux, mais maintenant, en France, reste à poser le problème le débat dans des conditions acceptables et politiquement intéressantes. Quoi.
Bien, eh bien, ça fera sans aucun doute l'objet d'un autre débat ici ou ailleurs sur une thématique qui, vous l'avez bien compris, va continuer à interroger les politiques publiques sur un fond d'inégalité. Je rappelle ici que 80% de la population mondiale vit avec 20% des richesses mondiales et que c'est aussi à la base d'un certain nombre de déplacements, avec un autre défi qui est un défi démographique, on l'a souligné, mais enfin, les années 60, 3 milliards d'individus, aujourd'hui nous en sommes à 7 milliards, dans 2040, nous sommes, les prospectives nous disent, aux alentours de 8, 9 milliards. Tout ça sur des territoires restreints, puisque les gens se déplacent plutôt vers les villes, avec des ressources en diminution, un partage de la ressource. C'est l'histoire du... Ça peut bien être l'histoire, si on n'y prend pas garde, du trop-plein et du déclin. Et tout ça doit nous inciter, je crois aussi, à beaucoup d'humilité, et devrait inciter les politiques publiques à beaucoup d'humilité, parce que toutes les solutions collectives qui sont mises en œuvre se heurtent toujours à des stratégies individuelles qui sont souvent des stratégies de survie. Merci de votre attention.
Merci à vous. Anne-Sophie Bruno, Catherine de Venden et Pierre-Henri, merci beaucoup pour ce passionnant débat. Je vous rappelle que vous pouvez réécouter ce débat sur le site de la BPI, dans la rubrique des archives sonores. Et vous pouvez également trouver les ouvrages des intervenants qui sont en vente à la sortie de cette salle. Merci à vous.